Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop et c'est un mort tout en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics qui flinguent de glace.
Les flics, la police c'est le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Vois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt, frère meurt. Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans pare-poil.
Salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Dio, il est 12h01 et vous êtes en train d'écouter l'émission du numéro 0. L'émission du numéro 0 qui a lieu tout un jeudi sur deux, qui est rediffusée le jour même à 5h. Le numéro 0, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est un média, c'est toujours un média alternatif et participatif de la région stéphanoise. Il existe sous plusieurs formes. Alors, au départ, c'est un site internet sur lequel tout le monde peut publier des infos du moment qu'ils se sont concernés et qui participent à ces événements. Il y a aussi une version papier gratuite qu'on peut trouver un peu partout, qui sort de façon irrégulière, et donc l'émission radio. Ici, le principe, c'est de parler des infos, des brèves, du désordre et d'ailleurs. On espère prendre le micro pour rencontrer des gens qui luttent. Et voilà, c'est l'occasion de cracher dans la soupe et de baver dans un micro. Alors voilà, vous pouvez nous contacter à emissionradio@fastmail.net. Aujourd'hui, on a au programme, on commence avec la situation de la lutte de grève et d'occupation à la fac. Et ensuite, on va parler avec une personne qui est dans le studio de la situation des sans-papiers à Saint-Étienne et ailleurs et de la lutte qu'il faut pour en avoir quelques-uns pour pouvoir rester en France quand on n'y est pas né. Voilà. On y va ?
Et voilà, donc maintenant nous allons parler un petit peu, faire le point sur la situation de la grève à l'université. Donc on vous en a parlé dans les émissions précédentes. Je vous en reparle vite fait parce que ça continue. Voilà, donc ça fait à peu près 2 mois là, que l'université de Saint-Étienne est en grève. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mouvement s'amplifie, comme on dit. Donc... plusieurs sites de l'université, entre autres les STAPS, La Métard et Tréfilerie sont toujours bloqués, donc ça fait plusieurs semaines déjà. Donc le blocage, ça veut dire qu'il n'y a pas de cours, mais il se passe plein de choses à l'intérieur de l'université pendant ce temps. Voilà. Les personnels sont toujours en grève. Donc parmi les choses qui se passent à l'intérieur de l'université, il y a toujours l'université solidaire. Donc c'est un programme d'intervention et de débat qui remplace les cours habituels, qui sont souvent beaucoup plus chiants d'ailleurs. Donc voilà, l'université solidaire, ils ont organisé pas mal de choses cette semaine. Et là, y aura ce soir à 21h un film qui s'appelle L'Élipe, l'imagination au pouvoir. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que ça parle de gens qui ont fait la grève dans leur boîte et qui l'ont occupée et qui l'ont autogérée même.
Oui.
Oui, voilà. À côté de ça, il y a pas mal d'actions en dehors de l'université. Les gens font des actions dans les rues, dehors, au péage, des manifs et tout ça. Donc, bien entendu, ils ont participé, ils ont fait un beau cortège dans la belle manifestation de la grève générale de ce matin, voilà, qui était très grosse et très, très, très bien. Voilà. Et à noter qu'il défilait derrière une banderole où il était écrit « Université ouverte à tous et toutes ». Gratuite et autogérée. Voilà, c'est beau quand même de voir ça. Voilà. Et cet après-midi, ça continue aussi. Donc à 21h ce soir, il y a le film sur l'Élipe. Mais cet après-midi, à 14h, dans l'Amphigie 01 à Tréfilerie, il y aura une grande assemblée générale où tout le monde est invité, c'est-à-dire tous les secteurs en grève ou en lutte ou qui ont des problèmes et qui veulent en parler. Tout le monde est invité à venir partager ses problèmes et ses luttes. Voilà. Et puis, je vous rappelle une énième fois le blog où vous trouverez sur Internet toutes les infos du mouvement. C'est UJM en lutte, tout attaché, -st-etienne.over-blog.com. Voilà, UJM en lutte, saint-etienne-overblog.com. Et à savoir qu'il me semble que parmi tous ces grévistes, donc tous ces gens qui ont fait la grève aujourd'hui, 19 mars, il y en a pas mal qui sont motivés à ce que cette grève continue demain. Mais bon, on verra demain.
Ouais, il faut que ça continue. Hein.
Et moi, j'ai entendu dire que, à ce qui paraît, après la grève générale, on arrête tout. C'est-à-dire, on reprend pas le travail et tout ça.
Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais on dirait que si à la fin de l'émission, on a le temps, bah, on vous lira un appel à faire la grève générale pour de vrai.
Yeah.
Voilà.
Eh ben, on va s'écouter un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Best of Muslim, c'est ça ? Muslim, d'accord. On va écouter un morceau qui s'appelle Tanya et c'est tiré du Best of de Muslim. Voilà, c'est parti, si ça veut bien partir. Ouais, c'est parti.
ناقي طنجة
شوف كريمي دلع وبين سناقي طنجة
بنادم نسم بلع بين سناقي طنجة
بنادم بالجوع شبع وبين سناقي طنجة
بنادم متبوع وتابع بين سناقي طنجة
شوف كريمي دلع وبين سناقي طنجة
بنادم نسم بلع بين سناقي طنجة
بنادم بالجوع شبع وبين سناقي طنجة
بنادم متبوع وتابع حيفيو دري سحلها طوقي دليو شرابي يليو حماقي وليو بايطة الكحلة صحة قتلة الوليدة عقلة خجلة فبالو بهاديك هي الرجلة داري شم وسيلي العالم ولا يشمك راشي كباليلي جرب العيشة راسي ولا تقيل كيف الريشة ضعف تخون صبعتي رجعت كنيشة عمر الويل ساقدر تقص قي قصو الطبيعة زعما شم هو نقي يلا طيف عفو دريس تطوف الخاوية بغاو ولا ولا طيق تلفو ما لاحظتوش من اللي نضوخو تفهم بالفاشل تحس براسك فلوخو الريح اللي جاي يديك ما تسمى وين تاب نسوبو بالحق ماشي بحال اللي تاب ولا متداري ينفر عليهم ينكر اشرح يحلل يفسر احنا ما كناش نعرفو باللي تجيني سكر
كيشوف السباعي ديال الصدوع يبانو لعبو ببنانو خبصو لسنانو ما حد سبع كويس سنانو كراطي تحلو تحت جناحو مدخن فيهم مناس نكرشو والمشية ديالو تفرشو يصبح في الحومة رعرع كي تشوفو قاعو باقي ملعلع بكلام بلالي كيجمو زعما حباس يفهمو على الدرويش يسعمو مع السكت يندمو هكذا هي الحياة اللي جاري بها العالم في الزنقة العيشة حمقى ما نعرفوش بلي الدنيا علينا غمقى الحياة خاصها تصعوض انسان يعيش ترانكيلو ما يطلع ما يهوز انا عارف صهر مقود شني طحان حنا نسمرو على الحديد اذا سخان ضربوه بلا حرق بلا دخان شربوا يلي على بعضكم تقفزوا تعملوا في حال البومر كيفاش يحضر خبزو ياو بين سناقي طنجة
شوفوا كريمي دلع وبين سناقي طنجة
ندم للسم بلع بين سناقي طنجة
ندم بالشوع شبع وبين سناقي طنجة
ندم متبوع وتابع بين سناقي طنجة
شوفوا كريمي دلع وبين سناقي طنجة
ندم للسم بلع بين سناقي طنجة
ندم بالشوع شبع وبين سناقي طنجة
ندم متبوع وتابع
فضت الفوضى العين بالعين السيف بالسيف الدم بالدم في نار في الروضة الزنقة في طنجة رجعت مقودة الداري غمطت عينه وخلات إبليس مقودة مريحالت وخصلي نوضة بلا تاشي سبة يترتق لمضة تسمخ بالدن والملة سماطي تحلى تشوف تعلى مدن بنفسه كيطلب السلة شيطان براسه دخلو الخيندو قالك في الأول كان غير كيتفلة مع من كيتفلة والداري الساحي فيهم مش طاب الحبة دلة المرضي فيهم يماه الحب من دار حسلة حب الولدة من قلب زلة وتقول لي علاش ولد سيل جواب ديالها مجرد زلة الخاوة واش فهمتي ولا حيت فيك الحالة عتقول لا الحالة طنجة في عينه عقدة شكون يحل شكون يحل الدين او الحكومة احسب بدا عنا محكومة في كومة كلمة الحق ترعى مبكومة حيت بالقومة مدعين المخزن الدقة زرقة كتقى فطر مرسومة كنعاود نوزن العقدة طنجة كجبر المخزن اول وجهة متهومة شركة دخواضو في سوق البورصة مشخصة حيت طلع سهومة دبا هادي مفهومة جبرنا على من عنحطو اللومة وانتوما عتقو قنبير الروس صحيتكم كاملة في الزنقة بير الروس خايفين من الحملة في الحومة هي الروس في الحاج فيكم
ايو بين سناقي طنجة
شوفو كريمي دلع وبين سناقي طنجة
بنادم للسم بلع بين سناقي طنجة
بنادم بالشوع شبع وبين سناقي طنجة
بنادم متبوع وتابع بين سناقي طنجة
شوفو كريمي دلع وبين سناقي طنجة
بنادم للسم بلع بين سناقي طنجة
بنادم بالشوع شبع وبين سناقي طنجة
بنادم متبوع وتابع
قاشلة
ايوي
يا
فلو حماق
بعد مدريد وفش الخاوة يه رمدو زين في الراب كيدا خطر الدالي
دراري كامل
سنقات فلو الخاوة مسلم دي جي فايل
الخاوة العربي
بودي
خطر الدراري ديالنا كامل دراري هنا
اسلامي كان
ولا في الغربة
عرب صولج
ولا في الحبس
مقال يا
الله حماق دايما
طنجة دايما الفوق الفوق
فوق
سنقي طنجة
Yo, alors c'était Mousslim, un groupe de Tanger, et c'était une chanson qui parlait de Tanger, des rues de Tanger, dans lesquelles on peut retrouver un petit peu tous ces gens qui regardent en direction de l'Espagne et qui essayent par tous les moyens de quitter leur pays pour venir en Europe, parce qu'il y a ce qui paraît en Europe, c'est mieux. Alors voilà, là on va enchaîner tout de suite un petit peu le point de départ de cette idée d'interview. On va enchaîner par une interview, l'interview de Nathalie. Et le point de départ un petit peu de cette idée d'interview, c'est d'annoncer la semaine d'action et de mobilisation pour la régularisation de tous les sans-papiers du 22 au 28 mars, qui va se passer à Saint-Étienne, organisée par toute une flopée de gens qui se bougent sur la thématique des sans-papiers, notamment RESF, le comité de Tchétchénie, les réseaux de solidarité Rome, réseaux citoyens, collectifs sans-papiers, etc. etc. Nous, ça nous intéressait particulièrement du coup de donner un petit peu un exemple de ces situations de sans-papiers et tout ça et on voulait aussi parler du coup du collectif sans-papiers qui nous paraissait intéressant parce qu'ils essayaient de fonctionner sous une autre forme, qu'ils essayaient de sortir un petit peu du système de parrainage de blancs avec des papiers qui parrainent des sans-papiers et qui se mettent un petit peu au-dessus, que ce collectif, c'est l'idée, c'est un petit peu d'essayer de
collectivement, du coup, essayer de former une sorte de somme de moyens, d'entraide, d'informations juridiques et d'être un point d'échange plus que juste voilà, des blancs qui aident, avec le côté un peu misérabiliste de, des blancs qui aident des gens en situation irrégulière, qui sont dans la galère, blablabla. Et voilà, peut-être vous avez des trucs à rajouter. Et on peut commencer du coup tout de suite avec, avec toi Nathalie, qui a bien voulu venir dans le studio. On avait invité pas mal de gens qui n'ont pas trouvé le studio, qui n'ont pas réussi à arriver parce qu'il n'y avait pas de transport aujourd'hui, parce que c'était la grève.
Ouais, on est pris en otage.
Je voulais juste dire qu'on n'était quand même pas des briseurs de grève, que nous, on était des bénévoles et que ça nous paraissait parfaitement cohérent de continuer à faire de la propagande, même un jour de grève. Et que voilà. Et voilà. Du coup, bonjour Nathalie.
Bonjour.
Tu peux te rapprocher un peu du micro. Je sais pas si on t'entend bien.
Bonjour.
On s'est connus à travers le collectif des sans-papiers et on se demandait si tu pouvais nous expliquer, par exemple, quelle est ta situation à toi actuellement par rapport à tes papiers, par exemple, pour commencer.
Bon, concernant ma situation sur les papiers, pour l'instant, je peux dire que je suis encore en procédure parce que je n'ai même pas encore terminé la procédure, donc je suis encore dans la procédure et je continue à attendre.
C'est une procédure dans quel cadre ?
C'est une procédure d'une demande d'asile politique, normalement, donc... J'avais reçu un rejet au niveau de l'EFRA, donc là je suis aux commissions de recours. Donc j'attends qu'on puisse m'appeler aux commissions de recours. Sans ce moment-là, je saurai ma suite à propos de mes papiers. Pour l'instant, je n'ai aucune idée.
Tu es arrivée il y a longtemps en France ?
Ouais, ça c'est ma deuxième année que je suis ici en France.
Et ça fait combien de temps que tu as commencé tes démarches ?
J'ai commencé mes démarches pratiquement en janvier 2008. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la lutte. Je continue toujours.
Peut-être on peut dire aussi que l'OFPRA, donc c'est l'Office français de protection des réfugiés et de l'asile.
Et
la patrie, c'est oui. Ça. Donc l'OFPRA, en fait, c'est important de dire aussi que l'OFPRA se trouve à Paris.
Oui.
Et que dans n'importe quelle situation, pour quelqu'un qui demande une asile... en France, il faut monter à Paris.
Oui, il faut monter à Paris parce que tout se passe normalement à Paris. Donc, quel que soit, que tu sois dans n'importe quelle région, province, donc l'entretien, ça se passe qu'au niveau de Paris. Donc, vous êtes obligé de descendre à Paris pour prendre l'entretien, que ce soit pour l'OFRA, que ce soit pour la commission de recours.
Moi, je trouve ça intéressant que tu expliques un petit peu qu'est-ce que ça a représenté, du coup, ta démarche de demande d'asile, qu'est-ce que tu as fait du coup, parler un petit peu du dossier et après de l'entretien.
Du coup du dossier, bon, au départ, quand j'ai fait l'enregistrement de ma demande d'asile.
Elle se passe où cet enregistrement ? Ça se passe comment par exemple ?
L'enregistrement se passe comment ? Dès que vous arrivez, vous vous faites enregistrer au niveau d'une association Calapé qui se trouve ici à Saint-Étienne, qui s'appelle l'association Renaître. Et quand vous arrivez là-bas, aussitôt ils vous reçoivent et ils vous posent pas mal de questions. Et à la fin, ils vous orientent à ANAEM. Vous allez là-bas, arrivez là-bas aussi, ils vous demandent d'aller se présenter à la préfecture. C'est en ce moment-là que vous commencez vos démarches de demande d'asile.
L'ANAEM, on peut dire vite fait ce que c'est. C'est l'agence nationale.
Je ne connais pas mon.
C'est l'ancien OMI, en fait. C'est ça.
Non, pas tout à fait. Non, c'est pas l'ancien OMI. C'est.
En tout cas, c'est l'ANAEM, c'est eux qui organisent les fameux dernièrement là, les fameux retours collectifs là, les qui organisent les plans bus là, notamment pour tous les gens qui viennent d'Europe de l'Est,
ouais.
Qui organisent des du coup, qui a y a une nouvelle loi là, qui passait, je ne sais plus exactement précisément, mais qui favorise du coup le retour et qui prévoit une somme d'argent pour les gens qui veulent rentrer dans leur pays.
Oui.
Et notamment vers les, vachement vers les pays de l'Est. Et l'ANEM fait partie du coup des gens qui organisent les bus là, et qui fait un petit peu l'agence de voyage pour ramener les gens dans leur pays avec un départ en bus un jour déterminé. Avant ça, les flics qui tournent dans les squats un petit peu partout et qui mettent un petit peu la pression ou qui mettent des obligations de quitter le territoire pour faire flipper un petit peu et pour que les gens ils se dirigent bien vers l'ANAM et qui prennent le bus. Et même, on a vu là, cet été, là, au squat à Mon Plaisir, je crois que c'était au squat à Mon Plaisir, où l'expulsion du squat, elle a eu lieu pile le jour du départ organisé par l'ANAM.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors l'ANEM, c'est ce qu'elle, les départs qu'elle organise, c'est ce qu'ils appellent, en fait, c'est ce qui est appelé les départs volontaires. Donc il y a une incitation avec une somme d'argent en échange pour quitter le territoire français. Et effectivement, oui, c'était l'an dernier, je crois, l'expulsion du squat de Mon Plaisir, non ? Où effectivement, il y a eu tout d'organisé pratiquement le même jour, c'est-à-dire l'expulsion du squat, donc la mobilisation de plusieurs centaines de policiers, de flics, et les bus, effectivement, qui étaient préparés, qui étaient prêts pour emmener tout le monde au centre de rétention de Saint-Exupéry. Parce que peut-être on peut dire aussi qu'à Saint-Étienne, il n'y a pas de centre de rétention, et les personnes sont envoyées la plupart du temps à Saint-Exupéry, il arrive que les personnes y allent aussi dans d'autres centres de rétention en France, suivant comment sont organisés les retours au pays, quoi. Enfin, les retours, les expulsions. Pardon.
Bon. J'ai autre chose à dire. On peut peut-être revenir avec, Nathalie. Donc. Tu arrives à la préfecture et là commencent les démarches pour faire ce qu'ils appellent un récit, c'est ça ? C'est-à-dire que pour être asile politique, il faut justifier d'avoir une situation difficile dans le pays d'origine. Et donc ça se fait sous forme de récit. Et donc tu peux nous parler de ce moment-là où tu fais ce récit et à qui tu le fais ?
Eh bien, quand vous allez au niveau de la préfecture vous donne pratiquement un dossier à remplir. Donc, il y a tout des temps, il y a tous des questionnaires à l'intérieur du dossier. Et vous le prenez, vous allez avec ça chez vous à la maison. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à lire le contenu. Et vous avez un silo, aussitôt vous répondez aux questions. Parce que c'est questionné, c'est vraiment un grand document. Et à la fin, ils ont laissé deux ou trois pages pour que vous écrivez votre récit. Donc, dans ce document, il y a tout. Il vous demande l'acte de naissance, votre année de naissance, le nom de père, le nom de mère, le nom des enfants, si vous avez eu des enfants, si tu as été marié, vous êtes célibataire ou quoi, ou concubin. Et il vous demande aussi les raisons qui ont fait que vous puissiez quitter votre pays. Donc, quand vous arrivez à mettre tout ça en ordre quand c'est prêt. En fait, on nous oriente à la PADA. Au niveau de la PADA, là-bas, il y a des juristes qui nous expliquent comment ça se passe. Et le juriste lui lit d'abord le récit. Quand il finit de lire le récit, s'il trouve qu'il y a des erreurs, il essaie un peu de vous reposer des questions. Mais si c'est pas trop clair, qu'est-ce que ça veut dire? Et le juriste vous demande de bien arranger ça. Et à la fin, et il demande, bon, quand tout est prêt et quand le juriste a fini de contrôler tout le truc, s'il trouve que tout est en ordre, c'est à ce moment-là qu'il vous demande d'aller poster ça à la poste au niveau de l'OFRA. C'est ce qu'on appelle l'enregistrement. Et vous allez attendre parfois 2 ou 3 semaines jusqu'à ce que l'OFRA va vous reprendre pour vous confirmer qu'ils ont bien reçu votre demande d'asile.
Et pour les informations qu'ils demandent, par exemple le lieu de naissance, la date de naissance et tout ça, il faut le prouver
parce que bon, il y a des gens qui viennent parfois avec leur passeport, il y a des gens qui viennent avec l'acte de naissance, il y a des gens qui donnent enfin même comment est-ce qu'on appelle ça, un permis de conduire s'il n'a pas eu la chance de fuir avec ses papiers. Dans ça dépend, mais il faut que ça soit justificatif, que c'est vraiment votre vraie date, parce que même l'acte de naissance, ils n'acceptent pas la photocopie. Ça doit être vraiment l'original, pour plus de précision.
Et toi, tu as réussi à fournir ces papiers, ce genre?
Eh bien, moi, j'ai reçu quand même. J'ai demandé, ma demande d'asile a été précédée avec mon acte de naissance. Donc, c'était l'original. Donc, je n'ai pas eu de problème sur ça.
OK. Ouais. Et s'il n'y a pas... S'il y a une fuite précipitée et qu'il n'y a pas les documents, c'est pas possible.
Non, si c'est possible, c'est possible de, parce que vous justifiez que j'ai pas pu prendre mes papiers au moment où je fuyais le pays, donc je suis sans papiers et vous donnez votre date de naissance à la bouche. Oralement, vous dites je suis née par exemple le 5 janvier 2005 ou 2006 et ils enregistrent.
Et du coup, alors comment se fait-il que là, la procédure se retrouve à la commission de recours à Paris, de nouveau?
Et pour que vous arriviez à la commission de recours, vous devez d'abord, tout d'abord attendre la réponse de l'OFPRA. Donc, si l'OFPRA vous répond, il y a deux réponses. Ou tu acceptes, ou vous êtes rejeté et vous êtes obligé d'aller aux commissions de recours. Donc, si vous êtes accepté, du coup, mais c'est un peu rare que les gens soient acceptés au niveau de l'OFRA. Souvent, les gens ont souvent la chance d'obtenir les papiers qu'ils recours. Parce que l'OFRA, sur 10, je crois que parfois, ils donnent l'asile à 2 personnes. Hein. Sur 10, je peux dire exactement, parce que tout le monde qui va à l'OFRA, ils ne sont jamais admis. Du coup, c'est rare. C'est dans les cas rares de voir que quelqu'un est parti à l'OFRA. Et aussitôt, il a été considéré qu'il a eu son statut. Donc, souvent, l'OFRA vous rejette. Et quand vous êtes rejeté au niveau de l'OFRA, l'OFRA vous envoie un papier, il vous demande de faire un recours au niveau de la commission de recours. Donc,
et là, il faut être assisté d'un avocat obligatoirement ou on peut y aller seul?
Non, vous êtes obligé de prendre un avocat parce qu'il faut que vous soyez assisté. Il y a des codes, il y a des trucs qui se disent là-bas, c'est maintenant un jugement parce que vous avez accusé l'OFRA. Vous avez accusé l'OFRA au niveau de la commission de recours qui vous a refusé de donner la statut du réfugié. Donc, en ce moment-là, vous êtes obligé d'éclaircir avec ton avocat que par rapport aux raisons, ça existe dans les trucs de Genève, la convention de Genève. Donc, la personne est obligée d'avoir la statut. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe. Donc, il faut d'abord attendre la réponse de l'OFRA. Si l'OFRA vous rejette, en ce moment-là, que vous partez aux commissions de recours. Et si vous n'êtes pas rejeté au niveau de l'OFRA, vous êtes admis, il n'y a pas question d'aller aux commissions de recours. Là, automatiquement, vous avez le statut.
On a oublié un truc là dans l'ordre de la... Je suis en train de penser. Du coup, tu es passé par la préfecture. Après, du coup, tu as fait ton dossier pour l'OFPRA. Et après, du coup, normalement, l'OFPRA est censé t'entendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton entretien, comment ça s'est passé, et expliquer un petit peu comment ça se passe justement, cette histoire d'entretien, où ils revérifient ton histoire, où ils te posent pas mal de questions. Et... Moi, je trouve ça intéressant.
Oh, mais si, mais... Par exemple, moi, mon entretien s'est passé comment? Quand je suis arrivée à l'OFRA, j'ai présenté ma convocation à la réception et ils m'ont dirigé d'aller attendre dans une salle d'attente. Et puis, 30 minutes après, il y a un officier qui est venu m'appeler et puis je suis partie avec lui. Donc c'était juste dans une salle, vous êtes qu'à deux. Et lui commence à te poser des questions par rapport à ton récit. Donc,
et quel genre de questions il te pose du coup, ou toi il t'a posé?
Moi, par exemple, quand je suis arrivée, la première question qu'il m'a demandé, vous êtes née quand, votre date de naissance? Et j'ai dit, ma date de naissance. Vous avez des enfants? J'ai dit, oui. Ils sont au nombre de combien? J'ai dit, ils sont au nombre de 2. Donnez-moi les dates de naissance de vos enfants. Et je les ai données. Après, il m'a demandé, vous avez combien de frères, combien de sœurs? Je lui ai dit que j'ai un frère et 4 sœurs. Et après, je dis à 2 qui sont décédés. Après, il m'a demandé les raisons du décès. Je lui ai expliqué. Il a dit. Après, il m'a demandé encore pourquoi mon père a été assassiné. Et je lui ai donné les raisons pourquoi il était assassiné. Et il m'a demandé où se trouvait actuellement ma mère. Je dis que ma mère est en exil. Elle n'est pas au Congo actuellement. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce qui a fait que tu puisses quitter le pays? Et c'est là où je me suis mise à lui dire comment ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que je me retrouve ici en France. Et il m'a demandé, par rapport à ce que tu as vécu dans ton pays, est-ce que tu gardes des séquelles? J'ai dit oui, j'ai gardé des séquelles, beaucoup, beaucoup de séquelles. J'ai été traumatisée, j'ai eu beaucoup de problèmes, des maladies après l'assassinat de mon père. Et il m'a demandé encore si, est-ce que tu veux repartir chez vous? J'ai dit non, pour l'instant, avec la situation, je ne peux pas rentrer parce que j'ai peur. Il m'a dit, vous avez peur de rentrer chez vous? J'ai dit, oui, exactement. J'ai vraiment beaucoup peur par rapport à ce que j'ai vécu depuis la mort de notre père. Donc, ça persiste, la situation. Après, il m'a demandé, mais pourquoi tu avais... Parce que toute ma famille avait quitté le pays et j'étais restée toute seule. Donc, il m'a demandé pourquoi tu es restée alors que toute ta famille avait quitté le pays. Pourquoi tu as préféré rester? J'ai dit, parce qu'il y avait eu... Ils avaient eu un traité d'accord. Donc, il y avait... En tout temps, ils avaient signé les paix. Donc, il fallait que les gens reviennent à Brazzaville. Donc, c'est ça qui m'avait fait rester au pays. Je croyais que la paix devait rester pendant longtemps, alors que c'était juste provisoire. Et quand ça a recommencé, alors c'est à ce moment-là que j'ai pu quitter le pays. Et après, il m'a dit, vous êtes logé où actuellement? J'ai dit, je suis à Saint-Étienne, dans un foyer. Il dit, ça se passe bien? J'ai dit, oui, ça se passe bien. Après, il m'a dit, vous avez quel niveau? J'ai dit, j'ai un CAP en hôtellerie et puis j'ai un BTS en comptabilité. Après, il m'a demandé encore, et il m'a dit, est-ce que tu es prête à travailler si on te donne le statut? Je dis oui, je suis prête à travailler parce que j'aime bien travailler.
Pendant que le traitement du statut est en cours,
oui.
Est-ce que tu as comment tu fais pour vivre? Est-ce que tu as un travail, etc. ou bien?
Non, j'ai pas un travail, j'ai juste droit à la CEDIC, c'est tout.
D'accord. Et est-ce qu'il y a le droit de travailler?
Mais tu as le droit de travailler, bon, c'est maintenant que c'est sorti. Avant, c'était interdit, mais ça fait un moment donné qu'ils ont dit que si tu as déjà fait une année sur le territoire français et que tu as été rejeté au niveau de l'OFPRA, en ce moment-là, tu peux aller, tu dois chercher, si tu trouves par exemple une promesse d'embauche, par exemple, alors... Tu peux aller te présenter au niveau du ministère du Travail avec cette promesse. C'est en ce moment-là que le ministère du Travail vous donne l'autorisation provisoire de travailler sur le territoire français. C'est en ce moment-là que tu peux...
Et avant, tu ne peux pas?
Non. Avant, c'était interdit, mais c'est une loi qui vient à peine d'arriver. Donc, c'est maintenant comme ça. Si tu es rejeté, tu dois être d'abord rejeté au niveau de l'OFRA. Parce que si tu es encore à l'OFRA, tu ne peux pas aller travailler. Tu dois te recours pour demander l'autorisation provisoire de travailler et tu dois d'abord trouver une promesse d'embauche.
Alors, peut-être on peut écouter un morceau maintenant, une petite pause avant de continuer.
D'accord.
Et on passe à un morceau de Cazet, par exemple, qui s'appelle « L'ennemi de l'ordre ».
Qu'on me pousse à perdre, seul m'importe le verbe et ma horde. Je suis à vie l'ennemi de l'ordre.
C'est moi l'ennemi, moi qui suis malmené, mal aimé, et qu'on a surnommé le mal incarné, qu'on a berné toutes ces années. L'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée, mes chances de survie sont en sursis. Mon avenir est proche de l'asphyxie, car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser des remparts autour des peaux noires et métissées. Je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie. Et si ce bled faiblit, je deviens l'alibi. Et le blé fait faux bon, donc ça sent bon la xénophobie. On aime m'accabler, et devant sa télé, le peuple attablé, chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler, les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable dans l'ennemi de l'ordre. Je me méfie quand on m'aborde, et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre. Je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. Je suis une menace et une nuisance, à l'évidence la délinquance en puissance. Coriace sous la cuirasse, tenace dans la démence, d'une extrême virulence, sans classe et élégance. On discute, de ma jeunesse, mon impatience, mon faciès, mes prouesses, mon inconscience. On appelle la science qui dissèque ma race, mes rues, toi et taudis qui embarrassent. J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce. On dit que je casse et agresse dans l'allégresse, que je transgresse et agace en état de grâce, qu'apparaît stress et détresse là où je passe, que seul m'intéresse la paresse, que j'ignore la tendresse, que j'adore ajouter des crimes à mon palmarès, que c'est avec le poing que la police me dresse, et qu'au-delà du périph' nord se trouve mon adresse. L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre, vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre, vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. Je n'ai pas l'air qu'on tolère, j'ai l'allure, abonné au bas salaire, la couleur qui ne connaît que la colère. Et pour l'heure, j'ai la figure accolée au malheur. J'endure brûlure, molar et procédure, parcours au radar, mirador et coup dur, le refus des videurs et les règles en vigueur, le mépris des leaders, les lois et les rigueurs. C'est la guerre contre moi et pour la gloire. Je suis contrarié, sans emploi ni espoir, et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent à pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire. Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme et puis me tordre, m'aborde avec une potence et une corde, et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde. L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort, vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort, vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort, vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort, vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord.
Et vous êtes bien sur Radio Dio, la émission du numéro 0. On est toujours avec Nathalie qui nous parle de sa situation et de sa demande de, d'asile politique en France. Et donc on vient de voir que le parcours du combattant pour faire une demande qui a priori a été rejeté une première fois. Donc en gros... tout ce que tu viens de nous expliquer, la situation de toi et ta famille, ils ont dit non, ça justifie pas l'asile. Et donc alors, du coup, comment ça s'est passé ensuite?
Et du coup, je leur ai envoyé un rejet, ils m'ont dit que non, il faut aller mener aux conditions de recours pour aller bien s'expliquer là-bas. Mais comme on n'avait pas les notes d'entretien, donc on ne savait pas exactement où est-ce que j'avais mal parlé, bon, on a fait le recours juste avec mon récit et mon rejet. Et on a essayé d'éclaircir sur les trucs qu'ils m'ont demandé d'éclaircir. Donc j'ai éclairci comment j'étais... Il fallait que je leur explique comment ça s'est passé, ma détention, ma libération et... Ils n'avaient pas trop d'explications sur ça. Ils ont dit que c'était un peu artificiel.
Et est-ce que tu peux nous rappeler qui est actuellement au pouvoir, du coup, Congo-Brazzaville?
Actuellement, c'est M. Sassou Nguesso qui est au pouvoir.
Et comment il y est arrivé?
Eh bien, il est arrivé par un coup d'État. Il a pris le pouvoir par des armes. Parce qu'il y avait d'abord un président élu démocratiquement... qui n'a pas pu finir même son mandat. Donc, l'ancien président Sassou, parce qu'il fut d'abord président, donc 5 ans qu'il était écarté. Et après 6e année, il est rentré, il a fait la guerre pendant 4 ans. Et il a pris le pouvoir par les armes. Et il donc, a chassé le président élu démocratiquement.
Comment il s'appelle, ce président élu?
L'ancien président s'appelle M. Pascal Issouba.
Et Toi et ta famille, vous êtes retrouvés un peu pris dans cet renversement de pouvoir et cette prise de pouvoir par Sassou Nguesso.
Oui.
Et tu peux nous en parler un peu ou...
Ben, c'est par rapport aux fonctions que mon père occupe au pays, parce que mon père, il fut un inspecteur de police. C'est des gens qui ont travaillé vraiment beaucoup, beaucoup pour le pays. Et à la dernière minute, quand il y a eu les compagnons du président Lissouba, ils étaient là, ils étaient des cofondateurs de son parti. Et au moment où Lissouba a gagné ses élections, donc en fait, mon père était conseiller du président parce qu'il était un officier supérieur. Donc c'est à ce moment-là que nous tous on s'est retrouvés dans le parti de l'ex-président, en fait. Et quand il y a eu le coup d'État, donc... Quand la guerre est arrivée, il était recherché. Ils ont cherché à... Parce qu'en fait, ils avaient l'intention de liquider tout le monde qui était autour de l'ancien président, en plus. Et les familles et les enfants, tout c'était leur souhait. Donc, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu le massacre. Mais... Sauf quand mon père était assassiné, nous, on était ailleurs, lui, il était ailleurs. Donc, on a pris sa mort 2 jours après. Qu'il était mort déjà, donc c'était vraiment un grand choc. En plus, il avait un cousin aussi, qui est aussi un colonel. Lui aussi, il était assassiné 1 mois après. Donc c'était vraiment un chaos pour nous. Et du coup, on ne pouvait plus s'en sortir. Ma mère a pris peur. Voilà pourquoi elle a quitté le Congo. Et mes sœurs aussi, c'était la même chose. Et moi, je suis restée. J'étais la seule à rester au pays parce que je ne voulais pas d'abord quitter. Je me disais que ça allait se calmer. Mais après, à un moment donné, il y a eu quand même l'accord de paix. Le président avait demandé que tous les réfugiés devaient rentrer à Brazzaville. Et quand on est revenu sur Brazzaville, du moment donné que chez nous, pratiquement, il n'y a que 2 ethnies. Il n'y a que le nord et le sud. Donc, la guerre se passe entre le nord et le sud.
Et le président, enfin le dictateur actuel.
Le dictateur actuel, il est du nord. Et nous sommes du sud. Donc, mais ça cause un problème parce que jusqu'à aujourd'hui, tellement que les gens du sud ils ont été trop écrasés et ils ont perdu tous leurs biens. Et aujourd'hui, c'est UN qui est dans le cœur qui ne peut pas finir comme ça. Donc il y a toujours des problèmes, parce que même actuellement il y a des gens qui sont dans le maquis, au niveau les gens du sud qui sont dans le maquis, qui ne veulent pas sortir, ils sont en train de se préparer pour une autre guerre encore, parce que pour eux, effectivement, ils ne veulent pas voir le dictateur là, il a dit qu'il avait déjà commandé 12 ans en avant, et il a été renvoyé du pouvoir, et il est parti se reposer 5 ans en Europe, après il revient pour faire un coup d'État. Et il tue tout le monde, il tue des enfants, des parents. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'orphelins chez nous. Il y a beaucoup de veuves. Il y a beaucoup des parents qui se retrouvent sans enfants, sans maison. Et ça a précipité la mort de pas mal de beaucoup de gens, surtout des personnes âgées. Et vraiment, c'est vraiment un grand, grand choc. Cette guerre ne peut pas finir parce qu'il y a trop la haine maintenant entre nous. Entre le sud et le nord, c'est un truc qui va continuer parce que c'est trop fort, c'est trop choquant quand même. C'est trop choquant, ce genre de massacre. C'est trop choquant. Alors que le sud, c'est la plus grande partie du pays. Et le nord, c'est une petite minorité, mais ils sont en train d'écraser vraiment le sud. Donc, ils veulent travailler entre eux, ils ne veulent pas que les gens du sud soient associés, donc on ne comprend pas pourquoi.
Est-ce que... Je ne connais pas bien l'histoire du Congo-Brazzaville, mais c'était une colonie, française.
C'est une colonie française.
Et elle a accédé à l'indépendance en 60...
Non, 1960.
60.
Ouais. Et... 13, 14, 15 août 1960.
Et est-ce que le fait que ce soit une ancienne colonie française, est-ce que tu penses que dans quelle mesure la France, elle est encore impliquée là-bas, par exemple, avec Sassou Nguesso, est-ce qu'elle est impliquée à ta connaissance?
En tout cas, sur ça, je ne peux pas vous donner une réponse parce que je ne maîtrise pas ce qui se passe réellement entre la France et le président Sassou Nguesso, ça, je les maîtrise pas.
Mais en tout cas, ils savent comment il est arrivé au pouvoir.
Oui, ils savent tout qu'il est arrivé par la guerre. Il y a eu un grand bain de sang. Et c'est ça qui fait même qu'aujourd'hui, on puisse donner des gens des statuts de réfugiés au niveau de la France, de Congolais de Brazzaville.
Et de toute façon, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, Son Nguesso, quand il n'était pas président, là, dans l'entre-deux où il y avait le président démocratique,
oui.
Il était en France, il était hébergé en France.
Oui,
donc, du coup, ça laisse un petit peu imaginer quand même quel rapport il peut y avoir entre la France et le dictateur actuel. Quoi.
Voilà.
Et par exemple, l'administration, les autorités donc, de l'OFPRA, elles établissent régulièrement des listes de pays sûrs. Donc, c'est-à-dire qu'elle déclare que tel pays est sûr, donc il n'y a pas lieu de demander un statut de réfugié en France. Est-ce que le Congo fait partie de ces pays, de cette liste?
Non, le Congo fait partie des pays qui ont le droit de demander l'asile parce D'accord. qu'il y a des problèmes qui se sont passés et qui sont en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la Côte d'Ivoire, par exemple, aussi. Donc, ces pays-là, ils ont le droit de demander l'asile.
D'accord. À juste titre. Par exemple, on peut dire, parce que je l'ai vu récemment, cette liste, il me semblait qu'il y avait la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine, entre autres, je ne me souviens plus, enfin, des pays comme ça.
Mais aussi, ils ont des problèmes chez eux, il y a des guerres chez eux, c'est la même chose.
Oui, oui.
Il y a des guerres chez eux, ça ne marche pas, voilà pourquoi ils viennent demander l'asile.
Oui, voilà, c'est ça, c'est à partir du moment, de toute façon, où ils viennent demander l'asile, pourquoi on se pose la question de savoir si... ils viennent d'un pays sûr ou pas. Enfin, s'ils viennent, c'est qu'il y a des problèmes. Bref. Et toi, c'est quoi qui t'a décidé à partir du Congo et qui t'a amené jusqu'ici?
Eh bien, moi, quand je suis restée après, j'ai eu à ouvrir un restaurant qui fonctionnait très bien. Et en ce moment-là, j'avais un ami, M. Tamila, il faisait partie de... du rebelle qui est actuellement en conflit avec le président. Donc, ce rebelle-là, il veut pas sortir du maquis. Alors, quand il y a eu, et quand ils avaient fait une conférence, soi-disant que le président voulait lui donner un poste. Alors, ils avaient décidé qu'il puisse rentrer sous Brazzaville. Alors, son retour à Brazzaville, c'était pas facile parce que le gouvernement avait beaucoup, beaucoup peur. D'abord, il se disait que c'est quelqu'un qui sort du maquis, il a son peuple, il a son armée. Est-ce que s'il rentre, il y aura la paix? Est-ce que s'il vient, bon... Et lui, il voulait rentrer. Le jour qu'il voulait rentrer, donc c'était comme une grande fête côté sud, parce que les gens s'attendaient à la paix, quoi. Parce que lui, il ne veut pas sortir du maquis, donc il est obligé de sortir, parce que le président lui avait donné un nouveau poste, soi-disant. Et le jour qu'il voulait sortir, il y a eu une grande manifestation. Et cette manifestation s'est déroulée en plein cœur de Brazzaville. Et quand il était en route pour rentrer sous Brazzaville, parce qu'il était vers le sud, dans les villages du sud, il n'était pas dans Brazzaville, dans les petits villages du sud. Et donc, quand il voulait rentrer, il voulait rentrer avec toute son armée. Il ne voulait pas rentrer le seul. Et alors le gouvernement a eu peur par rapport à l'afflux de gens, par rapport aux gens, comment ils étaient activés, les gens étaient motivés, les gens... Donc ça ne lui a pas permis de rentrer sous Brazzaville. Et du coup, ça tournait au vinaigre. Il y a eu maintenant des armes. Le gouvernement a commencé à tirer sur le peuple. Donc ils ont cru que ça devait être un coup d'État, que lui ne rentrait pas pour venir prendre le poste que le président lui avait donné. En fait, il rentrait pour venir jouer un coup d'État, parce que soi-disant d'après le gouvernement, qu'il y avait déjà des miliciens qui étaient déjà placés dans par exemple à la radio, à la télévision, soit ça, ça, les, bon, ça c'est les dires du gouvernement. Donc, le gouvernement a vu que c'était pas normal. Donc, il y a eu des armes, ils ont commencé à tirer. Les gens ont eu des balles, il y a eu des morts. Il y a eu un hélicoptère qui a commencé à tirer n'importe comment sur des gens. Vraiment, c'était désagréable. Vraiment, c'était désagréable. Et ça, ça s'est passé en juillet passé, donc en juillet 2007. Donc, vraiment... Et moi, à l'époque, comme d'abord, j'ai des problèmes d'abord au niveau de mon nom de famille. D'abord, ils me connaissent très bien par rapport à mon défunt papa. Et quand ils ont vu que je sortais avec un ancien ex-milicien du monsieur qui était au maquis. Et donc, le lendemain matin, parce que les gens qui étaient du maquis, ils venaient au restaurant manger de temps en temps, parce que mon restaurant, s'il n'était pas dans Brazzaville, c'était à presque 17 km de Brazzaville. Donc, il y avait des gens qui venaient manger, des gens du monsieur qui venaient s'approvisionner des médicaments, des tout. Ouais. Alors, j'ai été suspectée à cause de ça. Et comme si j'avais un concubin qui vivait avec moi et qui était dans ce bâtiment. Au départ, je ne savais pas qu'il était dans la milice de ce monsieur. C'est par la suite qu'il m'avait dit ça. Je lui ai dit, mais moi, j'ai peur. Tu sais, moi, j'ai déjà des problèmes avec mon nom de famille. Et il dit, non, ça ne peut pas te concerner. Et quand il y a eu cette situation-là, du coup, la police est venue. Quand il y a eu distribution, quand ils ont chassé les gens, le lendemain matin, la police s'est débarquée au restaurant. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me poser des questions sur... parce que mon concubin, pour bien dire, il était vraiment proche, il est vraiment très proche du monsieur qui est au maquis. Et moi aussi, j'ai toujours une haine aussi envers le gouvernement parce que l'assassinat de mon père, ça ne m'a jamais intéressée. Donc, pour moi, le dictateur, là, ça ne peut pas marcher avec moi. Donc, ils sont venus au restaurant, ils ont commencé à fouiller de gauche à droite pour voir s'il y avait des trucs, il y avait des armes. J'ai dit, il n'y avait pas des armes, il n'y a pas des armes dans le restaurant. Ils ont dit, non, puisque tu sors avec un proche de ce monsieur, c'est sûr que c'est un truc qu'on attendait, puis peut-être ça allait causer un coup d'État. Donc, on ne minimisait pas les informations parce que chez nous, actuellement, au pays, quand il y a une petite fuite, vraiment, tu es suspecté du coup, hein, parce que le gouvernement a été déjà beaucoup surpris par ce mouvement qui est en maquis. Il a fait beaucoup de fois des désordres. Donc, dès que le gouvernement actuel attend que le groupe qui est en maquis veut venir, même si vraiment tu petite fuite, automatiquement tu dois être arrêté. Automatiquement. Parce que tu es suspecté du complot. Donc, c'est à ce moment-là que moi j'ai été prise. Ils m'ont amené, il dit, eh bien, tu es la fille de monsieur Intel, on te connaît tout et tout. Tu n'es pas là pour faire juste la restauration. On sent que tu as une dent contre le pouvoir qui est en place. Je dis, mais je ne voulais pas répondre tout d'abord à cet officier parce que quand tu me posais des questions, je ne voulais même pas le regarder. Je dis, et c'est normal, si c'était vous à ma place, tu pouvais être content avec le gouvernement? Non.
Je suis désolé, mais si on peut résumer, du coup, le gouvernement en place, là, qui est arrivé après un coup d'État, il a commencé à s'en prendre à toi à cause de ton père, à cause de
mon concubin aussi. De concubin, donc je me suis retrouvée dans deux situations.
Et du coup, tu as essayé de venir en France pour te réfugier, te mettre en sécurité.
Ouais.
Et là, en France, on te dit, ben non. Pour l'instant, c'est ça.
Pour l'instant, c'est ça. Donc, on continue la procédure. On va voir qu'est-ce que la France va décider.
Ouais.
Mais heureusement que la France savent la vérité.
Et ça va, t'es bien à Saint-Etienne?
Aussi, je suis bien à Saint-Etienne. Il n'y a pas de problème. C'est une vie très calme. Malgré qu'il n'y a pas du boulot, mais c'est bien quand même ici. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme Paris. Ce n'est pas comme Lyon. J'aime bien Saint-Etienne. Ça me plaît beaucoup.
D'accord, bah, peut-être on voulait aussi parler du collectif, mais peut-être on aura moins le temps là du coup.
Mais on le présente vite fait ou bien pas du tout?
Je sais pas.
Faut tout le temps de le présenter, le collectif sans papier, d'en parler un petit peu, expliquer un petit peu ce que c'est.
Franchement, moi je vais assister aux réunions, mais. Je ne sais pas exactement vraiment comment ça se passe. Mais tout ce que je sais, qu'artiste, là où je vais assister aux réunions,
Ils sont là pour aider les gens de sans-papiers, pour leur réalisation. Donc, de temps en temps, ils font des réunions, ils font des manifestations pour aider. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont au niveau de Saint-Étienne. Ça fait près de 5 ans, 6 ans que leur situation n'a jamais été établie. Et puis, c'est quand même douloureux quand même. C'est quand même douloureux. Donc, des mères de famille qui souffrent, donc de papas qui ont chômage, donc ils vivent qu'à partir de l'aide que les associations donnent. Donc pour moi, je trouve que c'est pas normal. Ils doivent être régularisés pour qu'ils puissent rester au moins en paix, parce que cette vie-là, c'est pas agréable, c'est pas du tout agréable. Donc je soutiens la société Actis, je soutiens le réseau Sans Frontières pour leur accompagnement, ce qu'ils sont en train de faire sous les réfugiés. Moi, je leur dis un grand merci. Et je veux qu'ils puissent continuer dans cette intention pour qu'au moins, peut-être qu'à la longue, il y aura peut-être beaucoup, beaucoup de gens qui auront leur titre de séjour au niveau de Saint-Étienne.
Alors, ce qu'il faut rappeler, du coup, c'est qu'à Actis, il y a des permanences juridiques sur rendez-vous, c'est ça?
Il y a des permanences sur rendez-vous. Tu dois prendre un rendez-vous avec Malika ou Valérie. Quand vous appelez, vous prenez un nouveau et le jour où je vous présente, c'est souvent, ils font ça souvent le soir, elles reçoivent à partir de 19h30 et puis tu expliques ton histoire, tu donnes toutes tes histoires, tu leur montres tous tes papiers, ils t'enregistrent parce que ce qui s'est passé avec moi, ils m'ont enregistré, ils m'ont pris mon numéro de téléphone, ils m'ont dit comme tu es encore dans la procédure, donc c'est pas grave, tu as bien fait d'intégrer déjà l'artiste. Parce que la majorité des gens qui sont là-bas, c'est des gens qui ont déjà fini presque toutes leurs procédures. Ils sont sans papier. Pas du tout pareil.
Du coup, les permanences, c'est l'occasion d'avoir pas mal d'informations juridiques, d'avoir des informations sur les procédures, éventuellement d'être un peu accompagné. Ouais. Moi aussi, je voulais souligner que, du coup, un des buts du collectif Sans Papier, qu'on voulait illustrer à travers un petit peu cette interview, c'était justement de faire de l'information juridique. Et faire un petit peu, je ne sais pas trop comment, d'aider un petit peu aux procédures et tout ça. Une des idées aussi de ce collectif, c'était d'essayer de créer des trucs d'entraide et des moyens de débrouille collectif, que les gens ils se débrouillent entre eux et entre gens qui ont des papiers, entre gens sans papiers, et que des moyens soient créés pour faciliter la vie des gens qui n'avaient pas de papiers, qui ne pouvaient pas travailler, qui ne pouvaient des fois pas accéder à des logements et tout ça. Mmh. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que le collectif Sans Papiers, il se réunit assez souvent, toutes les deux semaines, je crois.
Toutes les deux semaines,
c'est ça,
à la dérive, ouais. Et bien là-bas, on nous explique pas mal de trucs, ce que se passe, les nouvelles lois qui sortent. Donc, les Malikas nous expliquent comment ça se passe, comment se protéger en cas d'arrestation, comment ils nous ont demandé, bon, ceux qui sont dans des situations trop, trop irrégulières, il faut éviter de se mettre dans des attroupements, là où il y a plein de gens, il faut éviter. Tu dois avoir ton ticket sur toi quand tu es dans le tram, il faut éviter de frauder, il faut éviter de faire des gaffes pour ta protection. Parce que si d'abord, tu n'as pas de papiers, au cas où la police s'attrape pour un gaffe, tu as volé ou tu as fait quelque chose, et bien ça peut provoquer ton expulsion aussi.
Ouais, bah, c'est arrivé dernièrement, une personne sur Saint-Étienne qui s'est fait contrôler un arrêt de bus, de métro, de tramway, et ouais. Qui s'est fait...
Il n'avait pas de ticket.
Embarqué. Si, mais pas de papier officiel.
Ah oui, mais ça, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre ce mouvement-là, surtout ce dernier temps. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont arrêtés, on les amène à Nîmes, on les amène un peu plus loin, et puis arrivés là-bas, ils leur coffrent parfois pour 2 semaines, ils sont vraiment très maltraités, soi-disant, parce que la fois passée, moi j'ai vu un film, il y a eu un témoignage d'un garçon, c'est un Ouest-Africain, lui il était arrêté, il était amené à Nîmes. Vraiment, il a parlé pas mal de trucs qui se passent là-bas, mais c'est vraiment désagréable. C'est vraiment désagréable. Ouais.
Alors, on va être obligé un petit peu de finir du coup cette interview. Moi, je voulais finir par annoncer du coup la semaine d'action et de mobilisation pour la régularisation de tous les sans-papiers qui se déroule du coup à Saint-Étienne. Le gros point stratégique de la manif, ça reste quand même la manifestation samedi 28 mars. Rendez-vous 10h, place Jean Moulin. Et sinon, il y a pas mal d'autres trucs là qui sont prévus. Dimanche 22 mars à 20h, il y a une soirée projection du film Welcome au cinéma Rex à Montbrison. C'est 3,50€. Désolé, c'est pas gratuit. Le lundi 23 mars à 20h, au Remue-Méninges, il y a la projection d'un film qui s'appelle Parti les mains vides, qui est un film documentaire sur la question des sans-papiers. Ça, ça a l'air pas mal. De ce que j'ai pu, je crois que c'est sur l'immigration malienne et le problème des sans-papiers, je crois que c'est pas mal. Le mardi 24 mars, il y a la projection d'un court-métrage de Yannick Lenné, Bon souvenir de la souillarderie, et suivi d'un débat avec des familles roms de Saint-Étienne. Et ça, il n'y a pas de lieu pour le moment encore. Du coup, peut-être aller regarder sur Internet, soit sur le site de RESF, soit sur le site du réseau de solidarité avec les Roms. Après, on continue le jeudi 26 mars avec une table ronde débat face à l'Europe forteresse et la directive de la honte. Quelle alternative? Une autre politique migratoire ou la liberté d'installation? Je pense que ça sera une chouette. Ça, ce débat va se dérouler du coup jeudi 26 à la Bourse du Travail. Je pense que ça sera un chouette moment pour gueuler par rapport à toutes ces politiques immigratoires de merde et du coup peut-être de s'organiser. Et enfin, on finit le vendredi 27 mars. Il y a une rencontre ouverte à tous et toutes autour des comités de soutien aux enfants scolarisés de familles sans papiers et échange sur les actions amenées à ce niveau. Et ça, c'est toujours à la Bourse du Travail à 19h. Voilà. Et tout ça pour arriver, encore une fois, à la manifestation le samedi 28 mars, 10h, place Jean Moulin. Voilà. Peut-être on va continuer avec l'agenda, là, vite fait.
Oui, alors il y a d'autres choses qui vont se passer, d'un tout ordre. Ce soir, au Remue-Méninges, on peut rappeler aussi que c'est au 59 rue Désiré-Claude à Saint-Étienne, c'est pas loin de la fac Tréfilerie. Ce soir, il y a Isabelle Lepac qui viendra et qui présentera son ouvrage intitulé « Le voyage immobile », donc au Remue-Méninges, et c'est un livre qui témoigne de ce qu'elle a vécu quand elle était emprisonnée en détention provisoire pendant 6 mois et qu'ensuite elle s'est fait... internée d'office en hôpital psychiatrique. Bon, bref, elle a décidé d'écrire et de dénoncer le monde carcéral et psychiatrique. Elle a écrit ce bouquin, Le voyage immobile. Elle vient ce soir à partir de 19h pour en parler au Remue-Méninges. Demain, il y a un concert hip-hop trans PD Gwyn avec le groupe Viscéralement Déviant. Alors, ça se passera à la maison occupée de la SOF, au 14 rue François Albert à Saint-Étienne, derrière Château-Creux. Voilà, c'est un groupe hip-hop avec des chansons quand même bien sur le thème de la transphobie, les terrorismes ou le phallopatriarcat, etc. Voilà, donc c'est demain à partir de 20h.
Et on peut peut-être encore annoncer le truc du samedi, du vendredi 27 à la SOF. Toujours, il y a la projection d'un film, Une maison pas comme les autres, qui est une sorte de petit documentaire sur le squat Izmir. Il y aura peut-être la projection d'autres films sur les squats. Et voilà, vous êtes tous et toutes invités.
Merci en tout cas pour ce temps ici au studio de Radio Dio.
Merci Nathalie.
Je vous remercie aussi.
Voilà, cette émission sera rediffusée ce soir à 17h.
C'était chouette de venir témoigner, Nathalie, et on était très contents d'entendre tout ce que tu nous as raconté sur le Congo et sur aussi ta situation et tout ça, en espérant que ça fasse un petit peu réfléchir les gens sur le sujet et qu'ils prennent un peu plus position, parce que je pense qu'un des gros trucs de la situation actuelle, c'est quand même qu'il y a des gens qui sont sans papier qui galèrent et plein de gens qui ferment les yeux là-dessus et qui ne prennent pas position. Et qu'il faut prendre position dans cette situation, et voilà quoi.
Merci à tous et à toutes, et à la prochaine dans 2 semaines.